RFI. Grand reportage. Charlotte Hydrac.
Grand reportage qui nous emmène aujourd'hui en Inde, où les élections générales sont terminées depuis ce dimanche. Elles auront duré pas moins de 6 semaines. Résultat, ce jeudi, on saura enfin si Narendra Modi, le Premier ministre et chantre du nationalisme hindou, remporte un second mandat. En 2014, il avait battu très largement le parti du Congrès, un véritable raz-de-marée qui avait permis à son parti, le BJP, d'atteindre la majorité absolue à la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement. Ce qui lui a laissé les mains libres pour gouverner, avec comme résultat une importante division de la société indienne, division entre hindous, musulmans, dalits, les anciens intouchables. L'Inde, un pays fracturé après 5 années de nationalisme hindou. Un grand reportage signé Christophe Paget.
Je m'appelle Ashok Kanti Chakrakavarti. Je m'occupe de cette école ici à Benares et je soutiens M. Modi, car je veux le développement de l'Inde. Et son slogan, c'est le développement pour tous. Il demande l'aide de tout le monde, tous les Indiens, tous les jeunes, quels qu'ils soient. Narendra Modi a montré qu'il était un chef très efficace. Sous son impulsion, l'Inde est en plein essor. Elle monte et elle monte encore.
Nous sommes dans la cour d'une petite école de Benares, dans le sud de l'Uttar Pradesh, l'état le plus peuplé d'Inde. Par le portail ouvert, on distingue une véritable marée orange, la couleur du BJP, le parti de Narendra Modi. Ses partisans ont fait le plein, car en cette fin du mois de mai, le Premier ministre profite de son dépôt de candidature dans la circonscription pour traverser la ville à la rencontre de ses partisans, comme Mahendra Pratap Singh.
I am wearing the party symbol.
Je porte le symbole du parti, la fleur de lotus et une écharpe couleur safran. C'est le signe de notre bravoure. Narendra Modi est le seul à penser au pays. C'est un nationaliste. Il vient d'une famille très pauvre et lorsqu'il est devenu le Premier ministre de l'Inde, il a pensé aux opprimés de la société, aux pauvres et aux travailleurs, du bas de l'échelle, à tout le monde. Il y a tellement de partis en Inde. Mais ces dernières années, nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient tous corrompus. Modi, c'est le seul à être contre la corruption.
C'est important pour vous qu'il soit hindou ?
Oui, il a tellement de qualités. Il est comme un saint, un dévot qui a consacré sa vie au pays.
Mais lors du passage de Narendra Modi et de son cortège de ministres et d'agents des forces spéciales, les clameurs, si elles restent fortes, sont loin d'être assourdissantes. La foule est d'ailleurs moins importante qu'en 2014, car ce caractère religieux, cet hindouisme qui a imprégné les 5 années de gouvernement de Narendra Modi ne plaît pas à tous. Les musulmans, qui représentent 14% de la population indienne, sont particulièrement visés. Direction Lucknow, la capitale de l'Uttar Pradesh. C'est le soir, l'heure de l'appel à la prière du muezzin de la mosquée Abu Bakr dans l'ouest de la ville. 20 minutes plus tard, les fidèles sortent, aucun partisan du BJP parmi eux.
Je viens prier tous les jours, je vais voter pour le parti du Congrès, c'est un bon parti. Le BJP divise. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animosité entre les communautés musulmanes et hindoues. Au nom de la religion, les différences sont exacerbées.
Le gouvernement Modi fait de fausses déclarations, il ment. Modi ne fait que vendre son image. Ce n'est pas un Premier ministre, c'est un ministre de la propagande. Il ne fait que séparer les gens. Avant, les musulmans et les hindous avaient de bonnes relations, mais cette propagande crée de la haine. On reçoit des nouvelles comme quoi des musulmans sont tués, mais les médias sont biaisés, ils ne montrent rien de ce qui se passe.
Les musulmans ont le même respect que les hindous pour les vaches, mais ces 5 dernières années, même si un musulman transporte une vache pour aller la faire traire et pas pour la faire abattre, il est visé. On se sent concerné par ces violences. Si un musulman en est victime aujourd'hui, je peux être visé demain. Les gens doivent essayer de forger à nouveau cette unité hindou-musulman qui existait il y a 25 ans.
L'interdiction de l'abattage des vaches, sacrée dans l'hindouisme, a été la grande mesure politico-religieuse des premières années de pouvoir de Narendra Modi, avec pour conséquence l'agression et le meurtre de dizaines de musulmans, souvent propriétaires d'abattoirs ou de tanneries, par des brigades autoproclamées de protection de la vache. Qu'en pensent les fidèles hindous ? L'occasion de le savoir se présente rapidement. À 100 mètres à peine de la mosquée Abu Bakr, un temple hindou, le temple Sadhwan Devi Mandir.
Quand on sonne cette cloche, ça nous apporte une paix intérieure. C'est comme si l'on touchait les pieds de Dieu en personne. Beaucoup d'hommes politiques viennent ici. C'est un très vieux temple.
Un temple que Papu Sharma administre depuis des dizaines d'années. Il nous présente les nombreuses statues très colorées des dieux hindous adossées au mur dans des vitrines.
Ici, vous avez la section du dieu Rama, avec son jeune frère Lakshman et sa femme Janaki. Il y a aussi le dieu singe Bajrang Bali. Là, c'est Lakshmi Narayan, l'incarnation du dieu Vishnu. Et là, ce sont les neuf orbites des neuf corps célestes. À chacune correspond un dieu, Shani, Rahu, Ketu. Les gens viennent les révérer en grand nombre, le matin et le soir. Nous faisons un cercle de feu autour de ces statues. C'est de cette manière que nous prions.
Un vieil homme prend la parole.
Nous faisons ça depuis longtemps, c'est pour notre accomplissement personnel et pour la tradition. Je viens tous les jours au temple, cela nous permet d'être en paix.
Devant une des vitrines, nous interrogeons Papu Sharma sur la politique de protection de la vache de Narendra Modi.
La vache est un animal sacré. Modi a seulement dit que nous ne devions pas lui faire de mal. Il y a certains éléments perturbateurs qui parfois font certaines choses inattendues. Mais les hindous et les musulmans vivent très bien ensemble. Ces violences à l'encontre des musulmans, c'est juste de la propagande, des fausses informations. À Lucknow, il n'y a aucune violence entre hindous et musulmans. Nous considérons leurs parents comme les nôtres, et inversement. Je vis en Uttar Pradesh, je ne sais pas ce qu'il en est en dehors de notre état, mais en tout cas dans notre état, il n'y a pas de violence.
Direction le quartier du tribunal de Lucknow pour voir avec des hommes de loi si les violences et discriminations envers les musulmans sont effectivement de la propagande. À l'approche du tribunal, une nuée de chemises blanches et de costumes noirs, l'uniforme réglementaire des avocats. Un uniforme porté par Wahidouz Zama Savvi, que nous rencontrons dans un tout petit bureau. Nous lui demandons s'il a eu à défendre ces dernières années des musulmans faussement accusés.
Je ne répondrai pas à cette question sur ces sujets sensibles. Vous savez très bien de quel sujet je veux parler. Ça va me créer des problèmes. Notre nation est en train d'être détruite par les politiques communautaires et les conflits entre communautés hindoues et musulmanes. Mais je ne veux pas en parler.
C'est un peu plus loin, dans une école, l'Amiru Daoula Islamia Degree College, que nous trouvons des réponses.
Je m'appelle Zafari Abdjilan. Ma clientèle est composée à 75% de non-musulmans. Quand je m'occupe de musulmans, c'est surtout qu'aucun autre avocat n'est disponible.
Zafari Abdjilan fait partie du comité de direction de l'établissement où nous nous trouvons, mais il est aussi et surtout avocat à Lucknow depuis 1971 et les nombreuses piles de dossiers qui l'entourent sont là pour le prouver.
Le gouvernement indien et celui d'Uttar Pradesh ont essayé d'impliquer des musulmans dans des affaires montées de toutes pièces pour susciter la peur chez les musulmans. Par exemple, à Bijnor, dans le nord de l'État, ils ont arrêté de jeunes musulmans, les accusant d'être impliqués dans des activités terroristes. Ils ont fini par être libérés car ils n'avaient rien fait. Le seul objectif, c'était de terroriser les musulmans. Avec la politique de la vache, il y a eu beaucoup de morts dans des états gouvernés par le BJP et ses associés. Leurs militants qui appartiennent à des groupes qui leur sont liés, comme le RSS, ce sont eux qui faisaient cela. Et la police n'a rien fait contre eux. Au contraire, elle a essayé de les défendre. Modi ne les a pas condamnés. Les quelques déclarations qu'il a faites n'ont pas été prises au sérieux par son gouvernement, ce qui montre bien qu'ils étaient impliqués dans ces activités inhumaines. Les relations entre hindous et musulmans étaient bien meilleures quand le BJP n'était pas au pouvoir. Ils essaient de diviser et ils y arrivent, jusqu'à un certain point. Les gens commencent à comprendre qu'ils le font plus dans leur propre intérêt que dans celui du pays.
Alors le BJP, un parti qui divise. Le même jour, nous rencontrons un des hommes clés du parti de Narendra Modi dans la région, le président du Parlement d'Uttar Pradesh, Ride Narayan Dixit. Dans le petit salon de sa résidence de fonction, Ride Narayan Dixit est assis dans un fauteuil orange, la couleur du BJP. À sa gauche, la traditionnelle statue de Ganesh, le dieu de la sagesse à tête d'éléphant. Sur le mur, plusieurs portraits, dont celui d'Ahilyabai Holkar, une reine indienne du XVIIIe siècle, célèbre pour les centaines de temples hindous qu'elle a fait construire.
Depuis les temps anciens, notre société est basée sur l'agriculture et la famille de la vache. Pour le lait, les travaux des champs, le transport. Quand j'étais jeune, je pouvais faire 100 km dans un char à bœufs. Cette relation très forte s'est transmise de génération en génération. Et il est écrit dans la Constitution, même si ce n'est pas une obligation, que nous devons protéger la vache. C'est très important pour le monde agricole et la société hindoue. La France a la liberté de parole, et je le respecte. La protection de la vache ici, c'est la même chose. Nous ne faisons rien de nouveau, juste ce qui a été écrit dans la Constitution. Il y a eu des incidents, mais les chiffres sont négligeables. Il n'y a pas eu de tension entre les communautés suite aux actions violentes de certains groupes que je condamne. D'ailleurs, dès que le gouvernement a eu vent de ces activités, il a fait ce qu'il pouvait pour les stopper. Dire que nous sommes un parti qui divise, c'est une vieille accusation. Le BJP est un parti nationaliste, ce qui veut dire que tout le monde doit être respecté, quelle que soit sa caste, sa culture, sa religion. Pour ce qui est des musulmans, depuis l'indépendance, certains ont occupé des postes importants. S'il y avait eu des inégalités ou de l'irrespect, comment les auraient-ils obtenus? C'est le genre d'accusations qui sont lancées pendant les élections. Qu'ils continuent.
Dans une petite rue de Lucknow, écrasée par le soleil, nous avons rendez-vous avec Rajiv Yadav, le secrétaire général de l'association Riai Manch, le Forum pour la Liberté, qui défend la Constitution et les populations les plus démunies contre, affirme-t-il, le BJP.
Attaquer les musulmans fait partie d'une stratégie du gouvernement, une politique qui vise maintenant d'autres sections de la société, des basses castes comme les Dalits, les anciens intouchables. Les Dalits s'occupent des peaux des vaches pour les vendre aux tanneries. Ces 5 dernières années, ils ont été attaqués par des gens affiliés à la caste dirigeante ou au BJP. On veut faire taire les musulmans et les Dalits.
Le minuscule bureau est rempli de dossiers et de portraits, photos, posters ou statuettes d'un même homme, Bhimrao Ambedkar, que Rajiv Yadav nous présente fièrement.
C'est le père de notre constitution. Il est aussi à l'origine du mouvement pour l'égalité de tous les citoyens dans notre pays. Chaque année, nous organisons une manifestation pour que la Constitution soit véritablement appliquée. Il y a 70 ans, elle a donné des droits à tous. Mais les hautes castes brahmaniques qui dirigeaient le pays ont continué à le faire. Et depuis que Modi est au pouvoir, l'idée est de consolider ce fonctionnement. Par exemple, la Constitution avait permis, après des années de lutte, de réserver des postes pour des gens des basses castes. Mais quand Modi est arrivé, les hautes castes ont récupéré 10% des postes en à peine quelques heures. Ces élections, c'est une question de survie pour la Constitution et la démocratie. Quand le BJP est arrivé au pouvoir en 2014, beaucoup ont dit que l'Inde allait devenir au final une nation hindoue.
On le voit, beaucoup de graves accusations. Mais ses opposants, ses avocats, arrivent-ils à se faire entendre du grand public? Ce qui leur permettra ensuite de faire pression sur les politiques. À en croire de nombreux Indiens que nous avons interrogés, les médias, loin d'enquêter sur ces dossiers, feraient la propagande du BJP.
Hi.
C'est à New Delhi que nous rencontrons Siddharth Varadarayan, le cofondateur et rédacteur en chef du journal en ligne indépendant The Wire. Pour lui, tout a commencé lors de la campagne électorale de 2014.
Beaucoup de propriétaires de médias et de journalistes ont soutenu Narendra Modi lors de son arrivée au pouvoir, pensant que ce serait bon pour leurs ventes. Ils ont cru à ce mythe du réformateur et du prodige économique, de l'homme déterminant, et ont aidé à le perpétuer. Et puis beaucoup de propriétaires de médias ont des intérêts économiques et financiers, ce qui les rend vulnérables aux pressions du gouvernement central ou des gouvernements régionaux qui veulent s'assurer qu'ils ne font pas de reportages critiques.
Autre arme utilisée, les procès. Le système judiciaire a été dévoyé, affirme Siddharth Varadarayan, dont le journal croule sous les attaques en diffamation.
Dhirubhai Ambani, dont la compagnie Reliance est partenaire de Dassault Aviation sur le marché des Rafales, nous attaque pour plus d'un milliard de dollars. Nous avons fait un article sur le fils du président du BJP et la justice nous interdit d'enquêter plus avant. Les dossiers sont vides, mais cela nous coûte de l'argent et un temps précieux perdu pour notre travail de journaliste. Beaucoup de médias préfèrent ne plus enquêter sur certaines entreprises ou les affaires financières des politiciens. Ces tactiques ont toujours existé, mais jamais à cette échelle. Ceux qui nous attaquent sentent l'attitude hostile du BJP et du gouvernement à l'encontre des médias.
En février dernier, la rivalité Inde-Pakistan s'est invitée dans la campagne. Avec l'attentat qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de paramilitaires au Cachemire indien et les combats aériens qui ont suivi entre les deux pays. Les télévisions indiennes ont alors emboîté le pas au discours nationaliste du Premier ministre.
Ce même journalisme qui a été complice dans le culte de Narendra Modi a profité de ces incidents pour empêcher qu'on le questionne sur quoi que ce soit. On sait maintenant que des alertes de sécurité avaient été ignorées. Et quand le Premier ministre a lancé une attaque aérienne sur un camp de terroristes au Pakistan, ceux qui demandaient « Comment vérifiez-vous ces chiffres de 300 terroristes tués ? Quelles sont les preuves ?» Ils ont été immédiatement accusés d'être antinationaux. L'opposition, les médias, les gens sur les réseaux sociaux qui insistent pour poser des questions qui seraient évidentes dans n'importe quelle démocratie sont tout de suite victimes de trolls, attaqués, étiquetés comme antinationaux ou traîtres. Je pense que c'est le dommage le plus grave que Narendra Modi et ses partisans ont causé à notre système politique, transformer le simple fait de poser une question en crime.
Devant cette difficulté à transmettre des informations et donc à s'informer, certaines associations ont pris d'assaut tout ce qu'Internet compte de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp.
Hi, Shabnam. Come.
C'est dans un sous-sol du centre de Delhi, alors que les élections battent encore leur plein, que nous rencontrons l'association ANAD, Agissez maintenant pour l'harmonie et la démocratie.
Nikhil Dey est un activiste social très connu. Il parle de la démonétisation. Le gouvernement dit que cela a été très utile pour combattre la corruption, mais en fait, personne n'en a bénéficié.
Et Nazafar est étudiante. Elle profite de son samedi pour tweeter des vidéos enregistrées par l'association. Des vidéos qui analysent et critiquent les 5 années de pouvoir de Narendra Modi. Comme l'explique une autre volontaire, Lina Dabirou, ces messages doivent toucher tous les votants.
Devant la caméra, ces experts parlent en anglais et aussi en hindi. Mais nous avons également contacté des volontaires de tous les États pour qu'ils traduisent les vidéos et les posters et les envoient à leur tour dans leur langue locale, en tamoul, en malayalam, en Kannada.
On ne compte que 6 personnes dans cette pièce, mais toutes sont très motivées pour faire entendre une autre voix. La fondatrice de l'association, Shabnam Hashmi, égrène quelques sujets.
Attaque de la constitution indienne, attaque des Dalits, attaque des médias, du droit informé, la situation au Cachemire. Nous sommes en train de tweeter tout ça. Là, notre hashtag est 7e sur Twitter au niveau national. La campagne prend. Mais nous ne sommes pas beaucoup. Dès que Modi est arrivé au pouvoir, de nombreuses organisations de la société civile qui avaient critiqué l'idéologie d'extrême droite ont été attaquées. Ils nous ont interdit de recevoir des fonds de donateurs étrangers et nous ont complètement étranglés. On était présents dans des dizaines de villages du pays, à aider les pauvres, les femmes, à faire de la formation. Tout cela a disparu. Monsieur Modi n'aime pas les voix dissidentes. Lui et le RSS, car il n'est qu'un des nombreux visages qui dirigent le pays. Le RSS, c'est cette organisation fasciste dont est issu le BJP et qui veut transformer l'Inde en un État hindou. Il ne croit pas à la diversité, au pluralisme, au multiculturalisme. De nombreux directeurs d'universités, des lieux de connaissance et d'excellence ont été remplacés par des gens liés au RSS. Ils se débarrassent des chercheurs, des intellectuels. 75% de l'espace démocratique a disparu. Les violations des droits de l'homme existaient sous les autres gouvernements, mais il y avait un espace pour les combattre. Aujourd'hui, cet espace disparaît très rapidement. Beaucoup de nos amis sont en prison et on ne sait pas qui sera attaqué demain.
Un sentiment de peur et de colère aussi prévaut parmi les ONG et les musulmans que nous avons rencontrés. Tous prédisent, si Narendra Modi est réélu, l'arrivée d'un État religieux, un État hindou qui les priverait de leurs droits. Tous posent la question de l'avenir du vivre ensemble, de la mosaïque d'ethnie, de caste, de religion que constitue l'Inde. Les déclarations rassurantes du BJP sur l'égalité ne suffisent pas, d'autant que les dérapages se multiplient. La semaine dernière, une candidate du parti a qualifié de patriote l'assassin du Mahatma Gandhi, un fanatique hindou qui considérait l'icône du pays comme trop proche des musulmans. L'Inde, un pays fracturé après 5 années de nationalisme hindou. Un grand reportage de Christophe Paget, réalisation Pierre Chaffangeon.